L'essentiel du Sud Vendée spécial vœux 2024, Nicolas Bonifay, Clément Daguzé.
Bonjour, on est de retour sur les antennes de Dig Radio Sud Vendée. Nous vous proposons aujourd'hui dans l'essentiel du Sud Vendée spécial vœux 2024 de recevoir les différents présidents et présidentes du Sud Vendée. En collaboration avec Clément Daguzé tout au long du mois de janvier, vous pourrez découvrir les bilans mais aussi les projets de 2024 des différentes communautés de communes. Pour cette première émission, nous recevons Ludovic Aubon, président de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée. Bonjour monsieur le président.
Bonjour.
Et pour m'accompagner, Clément Daguzé. Bonjour Clément.
Bonjour Nico, monsieur le président, bonjour.
Bonjour monsieur le président, bonne année 2024 à vous. Ma première question est simple, comment allez-vous ?
Je vais bien, je vais profiter de ce moment pour souhaiter une très belle et heureuse année à Dig Radio et puis évidemment à tous vos auditeurs. Voilà, je leur souhaite évidemment le meilleur pour eux et pour leurs proches.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024, monsieur le président ?
Du bonheur aussi, ma foi. On a beau être maire et président, on a besoin aussi d'amour, de bonheur, de choses positives. Et voilà. Et puis surtout beaucoup d'énergie pour mener les chantiers qui arrivent.
Durant cet entretien, nous allons parler des sujets principaux qui concernent le territoire, la santé, l'emploi, la population et les différents événements prévus en 2024. Clément, on va commencer par la santé.
Monsieur le Président, lors de vos derniers vœux en 2023, vous annonciez que 8000 habitants du pays de Fontenay-Vendée, n'avaient pas de médecin traitant. En 2023, différents travaux ont eu lieu à l'Hermenot. Est-ce que la situation s'améliore ?
S'améliore, je ne sais pas, elle n'est pas satisfaisante en tout cas, ça c'est certain. Donc vous avez raison, on a donc inauguré en 2023 la maison de santé comme on s'y était engagé de l'Hermenot avec l'arrivée d'une jeune médecin. Donc c'est pas suffisant, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, vous le savez, c'est un projet important qui verra le jour en 2024, on espère au printemps, entre mars, avril, l'arrivée du coup de médecins salariés sur le territoire avec un organisme qui s'appelle Care Santé, sur lequel la communauté de communes s'appuie. On espère effectivement, l'objectif à terme, c'est 6 médecins salariés dans cette future maison de santé, donc qui devrait voir le jour au printemps dans l'ancien service urbanisme de la ville ou service des sports pendant un moment, rue des Loges, et à terme qui devrait déménager sur le site proche des urgences de Fontenay-le-Comte, puisqu'on va construire un village santé dans lequel nous aurons à la fois des médecins libéraux qui pourront s'installer dans une partie des locaux et une partie du centre de santé de médecins salariés juste à côté. Et puis on a des kinés aussi qui se sont engagés, 3 kinés, qui se sont engagés dans cette maison de santé sur le site des urgences. Donc ça, c'est un projet phare de la communauté de communes. Et puis, on va continuer. On encourage aussi l'arrivée de médecins. On travaille très étroitement sur ces sujets. Donc évidemment, on est obtus à aucun sujet pour continuer à développer la santé sur le territoire.
Oui, j'allais vous demander, ce projet qui ouvrira donc en 2026, est-ce qu'il y a le projet de nouvelles maisons de santé sur le territoire ? Vous avez déjà l'idée de nouveaux médecins ? Alors là, vous parliez des kinés, donc sur le projet du village santé Simone Veil, mais est-ce qu'il y a d'autres deux projets ? Et puis vous parliez aussi du salariat des médecins l'année dernière. On sait que vous êtes favorable, vous l'envisagez tout le temps ?
Oui, moi je suis très favorable. Je pense qu'aujourd'hui ça correspond à une pratique des jeunes médecins. Je pense qu'on a vécu dans un modèle effectivement du médecin libéral, mais je pense que c'est bien sûr ça reste la règle et j'ai rien contre le libéral. En revanche, je pense que pour des jeunes médecins, pour certains parcours, je pense aussi à des jeunes femmes médecins, peut-être alors parce qu'aujourd'hui on sait que 70% d'une fac de médecine sont des femmes. Évidemment, quand on est maman, on peut avoir aussi, ça peut être plus compliqué d'être libéral. Donc je pense que l'activité salariée a de l'avenir et on va voir rapidement si ça fonctionne, mais c'est le pari audacieux qu'on fait sur ce territoire pour compenser en tout cas la désertification médicale.
Après, des choses ont été mises en place, je pense par exemple au logement des internes avec le département, et puis il y a la vidéo de la CPTS qui vient d'être sortie, qui est une belle promotion pour le territoire.
Exactement, et puis on a pris tout récemment la communauté de communes aussi une aide à l'installation qui vient compléter celle qui existe par l'ARS pour des médecins généralistes et aussi des médecins spécialistes. D'ailleurs, on a des arrivées sur la clinique et sur l'hôpital. On peut avoir tendance à voir les trains qui arrivent en retard et il y en a aussi de temps en temps qui arrivent à l'heure. On a, je crois, une jeune ORL qui va arriver prochainement sur le territoire. Il y a des projets d'installation d'urologues, effectivement. Donc il y a aussi des spécialistes qui arrivent. Pas suffisamment, mais en tout cas, on a des spécialistes qui arrivent. C'est plutôt des bonnes nouvelles.
Est-ce qu'on peut être vraiment optimiste pour cette année 2024 ? C'est un travail de longue haleine, forcément, mais on est optimiste ?
Oui, bien sûr, mais après, il faut être prudent parce que... Alors, si on est totalement honnête, on n'a jamais tant formé de médecins en France. jamais t'en former de médecin. Le problème, c'est que la pratique a beaucoup changé, que le médecin qu'on connaissait, le médecin de famille que moi j'ai connu, qui était corvéable, c'est terminé. C'est normal d'ailleurs, les jeunes médecins aspirent à une vie, je dirais, normale, entre guillemets. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin de plus de médecins, parce que bah, les médecins libéraux d'autrefois, ils sont moins présents. Donc, il faut effectivement plus de médecins. Et puis, on a plus de besoins. Et ici, sur ce territoire, on a besoin d'un accès aux soins normal.
Vous êtes président aussi du conseil de surveillance de l'hôpital, donc vous connaissez la situation actuelle. Comment on peut faire pour que ça évolue aussi dans le bon sens au niveau de l'hôpital ?
Oui, la situation, elle n'est pas non plus très bonne à l'hôpital. Hein. Je rappelle régulièrement qu'on ferme parfois les urgences, ou parfois des soins, parce qu'on manque de médecins, tout simplement. C'est le cas en gériatrie, par exemple, pour cet hiver. Enfin, en tout cas, pendant les fêtes, ça a été très dur. Il a fallu fermer des lits parce que ben, on a des services en gériatrie, par exemple, où il ne reste plus qu'un médecin. Donc, quand vous n'avez qu'un médecin pour l'hôpital, vous êtes, ben, ce médecin a le droit aussi d'être en vacances, d'avoir des journées de récupération. Donc, vous êtes obligé de fermer. Parfois, il faut fermer pour assurer la qualité des soins aussi. On peut pas maintenir un service si on n'a pas une équipe. C'est un médecin, c'est des aides-soignantes, c'est des infirmières. Et là aussi, on manque de bras. Donc le vrai problème, c'est l'attractivité des métiers, attractivité médicale. Donc on a rouvert des places pour des infirmières, pour des aides-soignantes, on a rouvert des places dans les centres. Donc il faut probablement 2, 3, 4 ans pour pouvoir former ces personnels. Il faut redonner de l'attractivité. Je crois que le Ségur, d'ailleurs la loi de Ségur, a permis aussi de revaloriser quand même les métiers de la santé, et c'était nécessaire, et je pense qu'il faut continuer. Et puis il faut continuer bien sûr à attirer les médecins. Et puis il faut parler positivement de ce territoire aussi en matière de santé, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut dire aussi ce qui marche, et il y a aussi plein de choses qui fonctionnent dans cet hôpital. Il y a une maternité qui fonctionne bien et je la défends régulièrement. Elle est ouverte, on a des bons praticiens. Donc moi j'encourage évidemment tous les futurs parents à venir à la maternité de Fontenay-le-Comte.
Positif, attractivité, c'est vos deux mots qu'on entend depuis tout à l'heure. Et vous avez créé il y a un an l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud en partenariat avec les communautés de communes. Elle fête ses un an, c'est une véritable nécessité pour ce territoire, cet outil. Quels sont les retours qu'on a actuellement de cette agence d'attractivité, Monsieur le Président ?
Alors, l'agence d'attractivité, elle avait deux missions. Hein. Vous savez, c'est le regroupement de nos services économiques et nos services tourisme. Donc, sur le service économique, l'agence porte des nouveaux projets qu'on n'avait pas, c'est-à-dire le salon de l'emploi et de la formation, par exemple. Ce sera un salon qui était plutôt emploi et qui va devenir emploi et formation. Donc, ça va être une très bonne nouvelle et c'est quelque chose qui monte en puissance. C'était vraiment un réel succès l'année dernière. Donc, voilà une des actions fortes sur le service économique. On a été aussi labellisé territoire d'industrie. On l'avait déjà été auparavant, mais on a relabellisé. L'État nous accorde des financements pour recruter quelqu'un. Donc, il faut animer, c'est-à-dire obtenir des financements pour des projets industriels. Vous savez que le combat de la réindustrialisation de la France est un vrai combat, et sur notre territoire aussi. L'industrie représente une grosse partie de l'activité économique, hein, sur notre territoire, et on la défend. Donc, on a un poste dédié aussi dans le cadre de territoire d'industrie. Donc, voilà, c'est quelques sujets en matière économique qui réarment notre territoire en matière économique.
Et puis, il y a quelques projets qui arrivent en 2024. On va d'abord commencer aussi par le campus connecté. Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que vous avez déjà une date d'ouverture ? Et puis, le type de formation qu'on va y retrouver ?
Oui, ça, c'est un de mes combats. Je pense qu'on a besoin, et ça fait le lien avec l'économie, d'ailleurs. Aujourd'hui, les sujets fonciers sont différents, puisque les entreprises ont... D'abord, on est dans une ère de sobriété foncière, donc on aura moins de terrain à disposition pour construire des bâtiments. Il va falloir rénover, refaire des bâtiments sur des terrains existants, rénover des friches. En revanche, le vrai service, la plus-value de notre service économique, c'est de travailler les sujets de l'emploi et de la formation, et d'apporter, de monter en qualification pour aider nos entreprises sur le territoire. Et donc le campus connecté, c'est on ramène l'université à Fontenay-le-Comte. C'est ça le sujet. Donc on va ouvrir, d'ailleurs la présidente de région viendra l'annoncer cet après-midi. On va ouvrir donc sur le site des Abeilles. La communauté de communes va faire des travaux pour refaire un plateau entier de bureaux. Donc c'est comme un gros espace de coworking avec le recrutement d'un tuteur qui va accompagner. Donc c'est à peu près entre une vingtaine d'étudiants par an, donc post-bac. Donc on va pouvoir faire à peu près toutes les formations universitaires qui existent en France à Fontenay-le-Comte avec un tuteur qui vous accompagne dans votre formation. Vous savez qu'il y a un sujet quand même de mobilité mobilité sur le territoire. Il y a un sujet d'accès au logement. Aujourd'hui, voilà, accéder à un logement quand on est étudiant à Nantes, à Poitiers, à La Rochelle, ça coûte cher. Tous les étudiants n'ont pas de moyens. Eh bien, ils pourront se former à Fontenay-le-Comte avec un tuteur et faire une formation universitaire. Donc ça, j'y tiens particulièrement, à la fois pour de jeunes étudiants post-bac et à la fois dans le cadre de la reconversion professionnelle. Quand on a 30 ou 40 ans, parfois on se rend compte qu'on a envie de faire autre chose et de pouvoir monter en qualification pourra le faire, parce que quand on a 40 ans ou 30 ans, on est un peu moins mobile qu'à 20 ans. On peut avoir des enfants, une famille, voilà. Et donc on pourra faire au campus connecté de Fontenay-le-Comte.
Vous parliez de la mobilité, il y a aussi le projet de la maison des mobilités, et puis aussi il y a sûrement un maillage vélo entre chaque commune du pays de Fontenay.
Oui, ça c'est un projet important pour 2024, la mobilité, je l'ai dit tout à l'heure, est un vrai sujet. La mobilité ne se résume pas que évidemment ferroviaire ou ovière. Il y a un sujet bien sûr, il y aura des annonces aussi prochainement, mais sur un projet communautaire important, c'est la maison des mobilités, c'est rouvrir un guichet à Fontenay-le-Comte d'information sur les horaires, sur les billets de train, les billets de bus. Donc on va rouvrir un guichet donc à l'horizon de 2025, c'est un peu trop tôt, on fera des annonces prochainement. On est en train de travailler avec les sujets de la communauté de communes et les élus qui sont dans ces sujets pour ouvrir un guichet effectivement d'information, maison des mobilités, où on trouvera aussi des stations vélo accessibles sur la communauté de communes, dans, pas que à Fontenay-le-Comte, et puis bien sûr un schéma intercommunal vélo pour relier l'ensemble des communes de la communauté de communes.
On voit que y a des actions qui se mettent en place sur la mobilité, sur la formation. Le but est de garder notre population sur notre territoire. On voit que, par exemple, la ville de Fontenay a gagné en population cette année. C'est ça l'objectif de toutes ces actions que vous mettez en place ?
Oui, alors je ne sais pas si le but en soi, c'est de grossir pour grossir. Ce n'est pas en soi ce qu'on souhaite, c'est garder une bonne qualité de vie ici à Fontenay-le-Comte. Mais évidemment, Fontenay-le-Comte a connu une population de 17 à 18 000 habitants. Donc l'idée, c'est effectivement de regagner de la population. La ville est structurée comme ça. Donc l'idée, ce n'est pas de faire une métropole à Fontenay-le-Comte. Mais l'idée, c'est de regagner de la population. Et merci de le souligner, puisque les chiffres qui sont annoncés par l'INSEE sont des chiffres finalement qui sont sur une période déjà révolue. Donc ce qui est important, c'est les chiffres qui arrivent. Et je sais déjà, puisqu'on a déjà les chiffres des recensements de l'année prochaine, les chiffres vont continuer à augmenter et de manière importante. D'abord parce qu'on a travaillé beaucoup la question du logement, de l'accueil des habitants, qu'on est après le Covid et que beaucoup de gens se sont réappropriés les villes comme les petites villes moyennes comme Fontenay-le-Comte et nos territoires ruraux également. Donc l'ensemble d'ailleurs de la communauté de communes, parce qu'il y a Fontenay-le-Comte, mais l'ensemble de la communauté de communes et la plupart des communes regagnent également des habitants. Donc ça c'est très positif, mais c'est le fruit bien sûr du travail qu'on a engagé de manière économique, de manière touristique, d'attractivité sur l'ensemble du territoire. Donc tout ça forme un lien extrêmement cohérent et on commence à récolter les fruits de cette politique engagée depuis quelques années. J'en suis ravi.
Et vous l'avez dit dans le magazine de la communauté de communes, 2024 sera une année pleine d'événements sur le territoire du pays de Fontenay-Vendée. Forcément, le point d'orgue de cette année, c'est le passage de la flamme olympique le mardi 4 juin à Fontenay-Comte. Est-ce qu'on peut avoir en exclusivité ce qui est prévu sur cette journée-là, monsieur le Président ?
Ah oui, alors avant de parler de la flamme, on va monter crescendo parce qu'on a voulu effectivement 6 mois intenses de manière, on a parlé de la jeunesse tout à l'heure, et sportive. Donc on va accueillir, les dates, j'ai pas tout en tête dans les dates très précises, mais on va accueillir un événement important, ce sera un double championnat de France de marche athlétique et nordique, organisé en partenariat bien sûr avec le SAF, que je remercie. Donc ça c'est un événement bien sûr très important, championnat de France de marche. On accueillera évidemment quelque chose qui me tient à cœur, c'est le concours départemental des meilleurs apprentis de France, donc qu'on va accueillir à Cassin, début avril, je crois le 2 de mémoire. Donc ça va être un moment important, parce qu'on aura à peu près 60 métiers qui seront représentés, du plombier, de l'esthéticienne, de la coiffeuse, des fleuristes, j'en passe, et des meilleurs, pour mettre en avant ces savoir-faire, ces métiers, l'alternance, l'apprentissage. Là aussi, ça fait le lien avec l'économie. Donc ça, ce sera très positif pour nos jeunes. Et puis, on va repartir sur un événement important sera la deuxième année du Tour des Pays de la Loire. Donc on sera la ville des grands départs sur nos 5 départements. La région nous fait confiance pour organiser cet événement. Donc on aura ce moment important du Tour des Pays de la Loire à Fontenay-le-Comte et qui passera également par 7 ou 8 communes de la communauté de communes pour repartir vers le nord, puisque ce sera une étape Fontenay-le-Comte-Saint-Jean-de-Mont. Voilà, donc un moment important dans l'année. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, bien sûr, un moment très important sera le passage de la flamme. J'en profite profite pour remercier le département qui nous a choisi comme une des quatre villes qui accueillent la flamme, puisque Montaigu, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne sont les trois villes qui accueilleront également la flamme. Nous serons les premiers. Donc pour revenir sur le programme, si c'était votre question. Alors nous, on l'accueille très tôt le matin, je crois de 8h30 à 9h30, donc c'est un peu tôt, il va falloir se lever tôt, puisqu'elle arrivera, je crois, de Niort la veille. Donc on organise, alors on aura des choses plus précises prochainement, mais moi, mon souhait, c'était évidemment que tous les enfants du territoire puissent venir voir la flamme. Je pense que c'est des souvenirs, ça se reproduira probablement pas tout de suite, d'accueillir la flamme à Fontenay-le-Comte. Donc je veux imaginer les yeux des enfants qui brillent, de pouvoir voir des champions olympiques dans nos rues, et accueillir la flamme, ce sera un honneur. Donc on se levera tôt, on organise un ramassage scolaire pour l'ensemble des enfants, donc ce sera évidemment travailler avec les instituteurs et les écoles du territoire. Donc je sais déjà qu'on est à plus de 3500 jeunes, entre les collégiens, les lycéens et les enfants des écoles du territoire qui seront à Fontenay. Donc on va les disperser le long du tracé, puisqu'elle partira de l'école Bourron-Massé, cette flamme, pour finir sur la place Viette. Donc il y a tout un méandre, un parcours dans la ville qui va être installée. Pour la ville, c'est un gros sujet quand même, parce qu'il y a un gros sujet de sécurité. On est quand même dans le plus haut niveau de Vigipirate. Donc ce sera, d'ailleurs, les services municipaux seront fermés cette journée. L'ensemble des agents de la ville et de la communauté de communes seront là pour encadrer les enfants, pour que tout soit fait pour leur plus grande sécurité. Il n'est pas question de mettre la vie des enfants en danger. Voilà. Et donc la flamme va passer, les enfants seront présents, mais pas que les enfants. J'invite évidemment tous les habitants du territoire à venir se masser le long du parc. Et puis on finira par un temps festif avec les enfants sur la place de Verdun, avec un spectacle hip-hop, voilà, et puis sportif. On va organiser une fan zone où tous les enfants se regrouperont avec un temps festif, et puis après la fête se terminera en fin de matinée pour nos jeunes, puisque la flamme partira après évidemment vers La Roche-sur-Yon.
Il y avait le festival Rendez-vous Compte l'année dernière et les Ricochets en territoire, c'est toujours au programme en 2024 ?
C'est toujours au programme, plus que jamais. Désormais, les ricochets, effectivement, l'ensemble des ricochets, parce qu'on avait des ricochets plutôt dans les communes rurales organisées par la communauté de communes, et puis Fontenay, la ville, avait gardé ses ricochets. Désormais, tout ça se passe sous la bannière de la communauté de communes. J'ai voulu, évidemment, qu'on intègre l'ensemble de la programmation. Donc, elle est en cours de préparation. Ça sera encore une très belle programmation cette année, qui va faire, d'ailleurs, le lien avec le sport. On a répondu, d'ailleurs, à un appel à projet de la DRAC. Donc, on aura un très très bon moment, d'ailleurs un peu sportif, avec des élastiques sur quelques tours qui restent au Moulin Lio, parce qu'elles n'ont pas été toutes détruites. Donc on aura un très très bel événement des ricochets dans le quartier des Moulins Lio, mais pas que. Je crois que, sans trahir de secret, que la commune, trois autres communes ont été aussi, dont Fous-Séperé, je crois, j'ai plus les dates en tête, mais on va bientôt annoncer les programmations des ricochets, et puis le rendez-vous, effectivement, le rendez-vous des comptes, qui est désormais un bel événement culturel sur l'ensemble du territoire. J'ai souhaité vraiment que la communauté de communes puisse engager une action culturelle importante dans l'ensemble de nos communes. La culture n'est pas que à Fontenay-le-Comte, elle doit se passer sur l'ensemble de notre territoire.
Dernière question, Monsieur le Président, et pas des moindres. 2024 verra aussi le chantier du pôle intercommunal culture et jeunesse de l'ancien collège Viette. C'est un projet nécessaire pour notre territoire ?
Il est nécessaire parce que ça va être le vaisseau amiral de notre politique culturelle. L'école de musique avait besoin effectivement de travaux. Vous savez que le bâtiment est dans un très mauvais état. Donc c'est un projet phare. Hein. C'est plus de 10 millions d'euros d'investissement qui seront faits. On a obtenu des financements d'ailleurs très importants de l'État, de la région, de nos partenaires. Donc c'est un projet qui sera plutôt bien financé, même s'il est important. Et on va pouvoir, avec ce vaisseau amiral, développer notre politique culturelle et la musique. Donc c'est pas que l'école de musique, hein, c'est deux projets, puisque vous l'avez dit, c'est un pôle intercommunal culture et jeunesse, avec la création d'un centre de loisirs, puisque nous développons aussi les accueils de loisirs, avec un centre de loisirs nouveau sur Fontenay-le-Comte qui ouvrira à la rentrée prochaine sur l'école Bourron-Massé. Donc un au nord de la ville et un deuxième à l'école de musique sur le site de Viette qui ouvrira aussi l'année d'après. Donc ce sera bien un bâtiment qui accueillera l'ensemble de notre jeunesse.
Eh bien, on voit qu'on a une année riche en projets en 2024 sur la communauté de communes. Merci Monsieur le Président d'être venu au micro de Digue Radio pour nous présenter tous ces projets. On vous souhaite encore une belle année de projets, une belle année sportive. Ça va être surtout ces mots-là qui vont rimer, je pense, votre quotidien.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup encore, merci Clément, et nous on se retrouve bientôt avec monsieur Valentin Josse, président de la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie. Merci monsieur le président.
Toute la journée, vous écoutez Digradio sur digradio.fr.